Il est 1h, c'est Phare FM qui vous accompagne dans la nuit autrement avec Mireille. Votre prochain programme, ne manquez pas Pain de vie et puis Affaires de famille.
La Bible dit:
ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
We were a long way from home, haven't seen you in so long, but it all came back in one moment. And the year started cold, but I didn't notice it all. And we found there's a room we're both in. We get Chinese food in small white boxes, live the life we saw in Friends. Your room, it barely fits the mattress. Wake up, leave for work again, the wind, it seems to blow right through us. Down jackets are the trend, the rush of rushing deep into love. English girl in an American town, no elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet are 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me, my English girl in an American town. Close, and the scent of your perfume's on me. You're useless with your phone, electric when one-on-one. I thought I would be more nervous, darling. We watch comedies and miss the endings. Conversations till the dawn. Any change in tide, we push against it. Challenge meanings in the songs and head out without a reservation. Drinking out of paper bags and wasting time is time not wasted. With my English girl in an American town, no elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet are 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me, my English girl. Drink Moscow mules and steal the cups from mostly the Bowery Bar. What a perfect day to fall in love on. What a way to make a start. It appears when you think all is lost, then you don't remember when it started. Never have to pretend. With my English girl in an American town, no elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet are 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me, English girl in an American town. No elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet are 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me, English girl in an American town.
Des engueulades, des retrouvailles à la bougie. Il nous faut du vent, un peu de pluie, de longues balades et pas de bruit. Non, pas de bruit.
I know what you mean, thinking of us. We're in a bar, people are just looking at you as usually. And why do you care? Is it too much? I need to know if I'm needed. You and I, close together, a new dimension. But if we're there, we will succeed.
continue, c'est que l'on partage deux, trois secrets d'enfants passage. Il nous faut l'envie de rendez-vous, un très grand lit, sans rien autour, non rien. You and I, close together, a new dimension, still far from being complete. You and I, close together, a new dimension, but if we dare we will succeed.
C'est Phare FM qui vous accompagne dans la nuit autrement. J'espère que vous allez bien. Si vous ne dormez pas encore, si vous travaillez, eh bien bon courage. Si vous ne dormez pas encore parce que vous ne dormez pas encore, eh bien on est ensemble pour écouter encore de la belle musique et puis pour que vous puissiez aussi vous découvrir vos prochains rendez-vous. Pain de vie, ce sera tout à l'heure. Affaires de famille un peu plus tard. Et puis bien sûr de la musique. Je vous propose Young Oceans maintenant avec la chanson Lead Me, suivie de Matka avec Adama avant de retrouver Pain de vie. Et je vous souhaite encore une bonne nuit à l'écoute de Phare FM. Merci de rester avec la radio autrement. À tout à l'heure.
Minuit 5h, la nuit autrement
avec Mireille.
May your fire take possession and burn away this pride. Let me hold your heat of holiness and never melt the truth into a lie. Selfish passion.
Restez digne, restez fort, ma
Place maintenant votre message pain de vie avec le pasteur Mathieu Perrot.
J'aimerais vous dire, des fois on vient comme ce matin dans ce lieu, puis on se retrouve au milieu d'une foule, et on pourrait se dire ou s'habituer à croire qu'on va passer inaperçu au milieu de la foule. Puis des fois c'est intentionnel, on fait exprès d'arriver un peu en retard, de partir un peu en avance pour passer inaperçu. J'aimerais vous dire que c'est pas avec Jésus, c'est pas possible. Avec Jésus, tu ne peux pas passer inaperçu, même au milieu de la plus grande foule, parce que Jésus voit toujours la foule qui est devant lui, mais devant la foule qui est devant lui, il voit chaque individu qui compose cette foule. Et des fois, on peut se dire, on vient avec tous nos besoins, et si on rassemblait tous nos besoins, toutes nos prières qui ne sont pas encore répondues, tous nos besoins qui ne sont pas encore pourvus, on pourrait se dire, il y a une foule de besoins qui est là. Et c'est impossible que Jésus pense à chaque détail de notre vie. Eh bien, j'aimerais vous dire, si Jésus pense à chacun de nos besoins, à chaque détail de chacun de nos besoins, de chaque individu qui compose cette foule ce matin. Nous sommes uniques et importants pour Dieu. Ta vie a de la valeur. Et ce matin, ne te dis pas, je vais passer inaperçu. Avec Jésus, c'est pas possible. Parce que pour lui, ta vie a du prix. Tellement de prix que ce matin, il est prêt à s'arrêter juste pour toi. Et pour chacun de nous, afin que pour chacun de nous, nous repartions avec une vie transformée. Que tu sois chrétien depuis 10 secondes ou chrétien depuis 50 ans, Jésus a quelque chose pour toi. C'est l'histoire que nous allons lire, l'histoire d'une foule qui s'est retrouvée devant Jésus. Et la Bible dit que la foule suivait Jésus parce qu'elle voyait le miracle. Elle voyait les miracles qu'il était capable de faire. Et à cause des miracles qu'il était capable de le faire, des miracles qu'il voyait, il suivait Jésus partout. Et la Bible dit que la foule va suivre Jésus jusqu'à tard le soir parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait. Mais l'histoire que nous allons lire dans un instant, c'est l'histoire d'une foule qui suivait Jésus parce qu'elle voyait le miracle et le désir de Jésus de l'amener à considérer, à ne plus voir seulement le miracle, mais à vivre le miracle personnellement. Parce qu'il y a un appel, et c'est le titre de mon message, il y a un appel individuel, personnel, pour chacun de nous à vivre le miracle. Pas juste le voir, à vivre le miracle. Cette histoire, c'est l'histoire d'une foule qui avait soif de Jésus. Cette histoire, c'est celle du petit garçon qui a offert 5 pains et 2 poissons. Et là, normalement, vous avez tous fait un ascenseur émotionnel, vous avez dit « Oh, mais non, cette histoire, je la connais par cœur. » Eh bien, laissons le Saint-Esprit, moi aussi je la connais par cœur, mais laissons le Saint-Esprit raviver des choses nouvelles, réveiller, nous apprendre, nous révéler des choses à travers cette histoire. C'est l'histoire d'une foule. On va lire dans l'évangile de Jean dans un instant, mais les 3 autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, en parlent aussi. Maintenant, pourquoi je veux lire dans Jean? C'est parce que Jean écrit, par rapport à Matthieu, Marc et Luc, il écrit 30 années plus tard. Et il donne des détails sur cette histoire que ne donnent pas Matthieu, Marc et Luc, parce qu'il écrit 30 ans après. Et une des choses qu'il rajoute, avant d'entrer dans mon message, je veux qu'on soit conscient de ça. C'est qu'il dit, il place le contexte de cette histoire, il dit la fête de Pâques approchait. Alors on pourrait passer dessus, et puis c'est cool, on a le mois dans lequel ça s'est passé. C'est pas ça. C'est que Jean veut souligner quelque chose d'important. À l'époque, la fête juive, la fête de Pâques, la fête juive là, de Pâques, c'était ça rassemblait les familles. Vous voyez un petit peu Noël pour nous? Eh bien, c'est un petit peu ça. C'est que toute la famille venait d'un petit peu partout du pays et se rassemblait pour venir à Jérusalem ou dans les grandes villes pour fêter ensemble, en famille, la Pâque. Ce moment où on se souvenait de l'histoire de Moïse qui était sorti avec tout le peuple de l'Égypte, délivré par Dieu. Et on rassemblait toute la famille. Les gens préparaient toute leur année pour venir passer Pâques en famille. Et ils se déplaçaient, ils faisaient des centaines de kilomètres, des dizaines et des dizaines de gens qui se rassemblaient dans les maisons. Imaginez tout le stress, toute la logistique, toute l'organisation que ça devait supposer. Tu devais pendant plusieurs jours te préparer à ce que belle-maman arrive. Et tu devais te préparer à ce que les 40 enfants, cousins, cousines, neveux, nièces, débarquent à la maison. Et tu devais cacher tous les objets fragiles. Parce que tu savais que cousin machin ou cousine bidule sautait partout et allait tout casser. Donc tu te préparais à ça. Et puis qui va dormir où? Et qui va manger à côté de qui? Et est-ce qu'il y aura assez à manger? Et pour tous ces enfants pendant 3 semaines? Les gens se rassemblaient, ils se déplaçaient. C'était un moment important. Mais alors que la foule devrait être dans ce moment-là, la foule a une attitude incroyable. Elle suit Jésus. Parce que plus important que la Pâque pour eux et pour cette foule, il y a Jésus qui fait des miracles. Et on voit les miracles et on a soif de voir encore des miracles. Et la foule oublie tout ce qu'ils devaient faire, tous les préparatifs, toute l'organisation, toute la famille recevoir, tout le stress pour une seule chose, suivre Jésus. Sommes-nous capables de laisser et de renoncer à toutes ces choses dans nos vies parce qu'il y a une soif plus grande dans nos cœurs, celle de voir Jésus? C'est la question que je nous pose ce matin. Il y avait une soif dans la foule, celle de voir les miracles. Et Jésus voit cette soif. Il va y répondre, mais il va lancer un appel, ne plus voir seulement, mais vivre le miracle. Maintenant, Pâques, moi, ça me parle aussi par rapport à Jésus. Jésus, son ministère terrestre, avant de mourir sur la croix, puis quelques jours après d'être enlevé au ciel, Jésus, son ministère terrestre a duré à peu près 3 ans et demi. Donc sur ces 3 ans et demi, il y a eu 3-4 Pâques qu'il a pu passer avec ses disciples. Que ce soit là, dans ce contexte, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, peu importe, c'est l'une des dernières qu'il va vivre avec ses disciples. L'une des dernières où Pâques, c'est quelque chose de particulier. Jésus sait qu'il va donner sa vie à la fête de Pâques. Et Jésus, il y a une année ou 2 ans, juste avant, jour pour jour, date pour date, avant de donner sa vie pour l'humanité, avant de livrer sa vie et de sauver l'humanité. Il a la mission la plus importante de toute l'histoire de l'humanité, sauver le monde. Et on pourrait se dire, à ce moment-là quand même, dans ce contexte-là, Jésus a des milliers d'autres choses à faire. Mais Jésus n'est pas trop occupé pour ne pas prendre soin de la foule. Et j'aimerais vous le dire, Jésus ce matin n'est pas trop occupé pour ne pas prendre soin de ton besoin, ne pas prendre soin de toi, ne pas s'arrêter, considérer ta vie, considérer ton impossibilité et dire j'ai un miracle pour toi. Parce que Jésus voit notre soif et Jésus n'est pas trop occupé. On est important pour lui. Il y a un appel à vivre le miracle. Et j'aimerais qu'ensemble on puisse voir quelques points rapidement de ce qui précède le miracle et ce qui va déclencher, actionner, activer le miracle dans votre vie ce matin. Lisons ensemble dans Jean au chapitre 6 à partir des versets 5 du verset 5 jusqu'au verset 13. Je lis pour vous. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, ils s'assirent donc au nombre d'environ 5 000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Amen. Quel récit incroyable. Et j'aimerais vous dire, la première chose dont il nous faut prendre conscience pour vivre le miracle, c'est que Jésus sait toujours ce qu'il veut faire. La Bible dit, on l'a lu ensemble, il va demander à Philippe, hey, où c'est qu'on peut acheter des 5 pains? Pourquoi il demande à Philippe? C'est parce que Philippe est du coin. Ils sont du côté de Bethsaïda. Philippe vient de Bethsaïda. Et donc il lui demande, il le met à l'épreuve. Il lui dit, écoute, le carrefour le plus proche où on pourrait acheter suffisamment de pain pour nourrir toute cette foule. Il dit cela pour les prouver car il savait ce qu'il allait faire. J'aimerais vous dire, de la part de Dieu, Jésus n'est pas surpris par ce qui vous arrive. Jésus n'est pas surpris par vos imprévus, par vos impossibilités, par vos manquements, votre passé, votre fragilité, vos victoires et vos échecs. Jésus n'est pas surpris par ça. Jésus sait ce qu'il veut faire. Jésus sait toujours ce qu'il veut faire. Il n'est pas surpris par nos situations. Jésus sait. Jésus sait ce qu'il veut faire, mais il veut que ce soit nous qui le fassions. La Bible dit que les disciples... Dans d'autres évangiles, on voit clairement que les disciples vont aller voir Jésus et lui dire « Écoute, t'as prêché longtemps là, il est tard, le culte c'était qu'une heure et quart, il est tard, il faut que... renvoie la foule, il est tard, faut qu'ils aillent manger, renvoie la foule. » Et Jésus va leur dire « Donnez-leur vous-même à manger. » Jésus sait ce qu'il veut faire, mais il voulait que ce soit les disciples qui le fassent. Jésus sait ce qu'il veut faire dans ta vie, mais il veut que ce soit toi qui le fasses. De quoi je suis en train de parler? Je suis en train de vous dire que la première clé dans le miracle dans notre vie, pour vivre le miracle, c'est que c'est toi. Parce que le premier empêchement, c'est nous. La première chose qu'il faut déclencher pour que le miracle se passe dans nos vies, c'est nous. C'est de comprendre que ça passe par nous. Et les disciples vont le comprendre. En fait, on fait face à un problème. Un problème de taille. Mesdames, vous savez, lorsque votre homme a faim, parents, lorsque un enfant a faim dans la maison, ça se sait. N'est-ce pas? Imaginez 5000 hommes qui ont faim. On a un vrai problème pour l'humanité. Sachant que là, la culture, la tradition à l'époque, c'est qu'on compte pas les femmes et les enfants. C'était pas les femmes et les enfants d'abord, c'était les hommes d'abord, donc il y en avait 5000. Et imaginez, je vais vraiment au rabais, il y a environ 10 000 personnes. 10 000 personnes qui sont là et qui ont faim. Dedans, il y a des enfants. Des enfants qui doivent être accrochés aux vêtements de Jésus et dire « j'ai faim, j'ai faim ». Tu sais, quand ça commence à se transformer dans leur voix, dans leurs yeux. Voilà, il y a des parents dans ce lieu, et les autres, vous êtes compatissants avec nous. Lorsque tu as 10 000 personnes qui ont faim, il y a un problème. Et les disciples, pour se débarrasser du problème, ils ont la solution. Ils le fuient. renvoie la foule. Et Jésus, lui, ne fuit pas le problème pour s'en débarrasser, il l'affronte. Donnez-leur vous-même à manger. Vous savez, David face à Goliath, Goliath n'a pas fui, David a dû affronter son Goliath. Et j'aimerais vous dire, dans votre vie, c'est pareil, pour votre impossibilité, il y a deux choix. Soit tu, pour t'en débarrasser, soit tu veux le fuir, mais tu t'en débarrasseras jamais, soit tu l'affrontes. Et j'aimerais vous encourager à comprendre ce matin qu'il faut affronter ces géants, qu'il faut affronter ces défis, qu'il faut affronter sa foule et son besoin. Il y a un appel à vivre le miracle. Jésus sait ce qu'il veut faire, mais il veut que ce soit toi qui le fasses. Donnez-leur vous-même à manger. Et là, on a un vrai souci. Et Jésus va faire un miracle. Mais la clé, la première, c'est que les disciples devaient comprendre que ça passait par eux. Vous savez, pour que ça se passe, le miracle, il a fallu un petit garçon qui a compris que ça passait par lui. Et qui est venu de lui-même donner 5 pains et 2 poissons. Maintenant, vous êtes conscient avec moi que si ce petit garçon, avec son petit panier de 5 pains et 2 poissons, était resté à la maison, ça n'aurait pas été bien utile. On est tous d'accord avec ça. Il fallait qu'il soit dans la foule. Et pour vivre le miracle, pour répondre à cet appel, nous avons besoin d'être dans la foule, mais d'y être avec Jésus. En fait, il y a une différence entre les disciples et le petit garçon. C'est que les disciples ne voyaient que la foule et son besoin de miracle, alors que le petit garçon voyait et ses yeux étaient fixés sur celui qui pouvait répondre aux besoins. Les disciples sont là que, mais est-ce qu'il y a assez pour tant de gens? Mais il y a trop de gens. Puis renvoie la foule, on ne pourra jamais les nourrir. Ils sont conscients du besoin, ils sont conscients du miracle à faire, ils sont conscients de tout ça. Mais le petit garçon, lui, a les yeux fixés sur Jésus, sur celui qui est capable de répondre à ce besoin. Je le dis autrement, les disciples, tout comme la foule, se nourrissaient du miracle du Seigneur, alors que le petit garçon se nourrissait du Seigneur du miracle. À quoi on le voit? André, lorsque... le petit garçon va venir avec ses 5 pains et 2 poissons. André va dire quelque chose qui est très symbolique. Intentionnel ou pas, consciemment ou pas, c'est très symbolique par rapport au contexte. Il va dire, qu'est-ce que cela pour tant de gens? Et en fait, dans le contexte de la Pâque, je l'ai dit, on se souvenait de quoi? On se souvenait que Dieu avait libéré son peuple de l'Égypte avec Moïse, qu'ils étaient allés dans le désert jusqu'à la montagne de Sinaï. Là, ils avaient reçu la révélation, les 10 commandements, la loi de Dieu. Et puis après, ils étaient nourris de quoi pendant cette période-là et les 40 ans qui ont suivi derrière? La Bible dit qu'ils étaient nourris de la manne qui tombait du ciel. Cette sorte de gâteau qui tombait du ciel, qui descendait tous les matins et qu'ils n'avaient qu'à ramasser. Pourquoi ce miracle de Dieu quotidien s'appelait la manne? Parce qu'en fait, lorsque la première fois, ils ont vu ce gâteau, ils ont tous dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que c'est? Et le mot manne signifie littéralement qu'est-ce que cela? André, dans ce contexte, tout comme les autres disciples, il est dans le contexte de la Pâque. Et il est dans ce contexte où il se souvient de tout ça. Où il se souvient du miracle du Seigneur, de la sortie de l'Égypte, de comment Dieu a ouvert la mer Rouge, les 10 commandements, toutes ces choses. Il se souvient du miracle de Dieu. Et alors qu'il est là, dans sa tête, c'est très ancré, c'est très visuel. Il a la manne, il a ce qu'est-ce que cela pour le peuple d'Israël. Et alors que les 5 pains d'orge et les 2 poissons débarquent, voilà que André, c'est intentionnel ou pas, c'est inconsciemment ou pas, mais voilà qu'il dit qu'est-ce que cela pour tant de gens. Autrement dit, c'est comme s'il disait, je le paraphrase ainsi, cette manne-là pour autant de gens. Et en fait, le problème des disciples, de la foule, c'est que le miracle n'était que l'histoire qui rappelait le passé dans leur vie. Alors que Jésus désire que le miracle soit l'histoire qui réveille ton présent. C'est pas pareil. On a vécu des grandes choses, on peut vivre des grandes choses dans nos vies, et bien sûr, faut s'en souvenir, faut s'en nourrir pour croire encore que Dieu peut faire des nouvelles choses, ne pas le limiter à notre passé, à notre expérience ou à ce qu'il a déjà fait, mais avoir cette soif de vivre des choses nouvelles. De ne pas limiter Dieu avec les miracles, mais de se nourrir de lui afin qu'il accomplisse le miracle dans nos vies. Il se nourrissait du miracle du Seigneur. Le miracle rappelait le passé, l'histoire du passé. Le petit garçon avait une réelle soif. Et pour lui, la manne qui avait été dans le désert pour le peuple, mais avec ses 5 pains, ça pouvait être une manne pour autant de gens. Le miracle était l'histoire qui écrivait son présent. Il se nourrissait de Jésus. Et j'aimerais vous dire qu'on peut vite limiter Dieu avec notre expérience, notre passé, tout cela. Et pour ceux qui ne me croient pas, Jésus va confirmer cette pensée-là. La Bible nous dit que quelques instants après, il va retrouver cette foule et Jésus va leur parler et il va leur rappeler la manne, ce pain descendu du ciel. Et il va leur dire, Je suis le pain descendu du ciel. Je suis le pain de vie. Jésus va leur rappeler, nourrissez-vous de moi. Je suis le pain de vie. Ne vous nourrissez plus du miracle, nourrissez-vous de celui qui fait les miracles. Parce que Jésus était dans le contexte de la Pâque, il était pleinement conscient que la foule y était aussi. Il se souvenait de toutes ces choses. Et je crois qu'on a besoin d'être dans la foule pour vivre le miracle, mais d'y être avec Jésus, les yeux fixés sur Jésus. Vous savez, quand je lis cette histoire, c'est comme si les disciples avaient été masqués, aveuglés par le besoin des gens, par la foule de besoins. Et on peut vite se laisser submerger par les besoins auxquels on ne peut pas répondre, auxquels nous ne sommes pas capables de répondre, et qui nous submergent, et qui comme nous masquent, la montagne est tellement grande qu'on ne voit plus celui qui a créé la montagne. Le petit garçon voyait toujours Jésus. Il était dans la foule, et ça c'est fondamental. Je fais une parenthèse, mais des fois on fait des prières à Dieu pour vivre le miracle, et on en oublie juste qu'il faut y être. On prie pour les quartiers, pour que Dieu les bénisse, mais j'aimerais vous dire, pour que le miracle se passe, faut y aller dans les quartiers. Faut y être, mais faut y être avec Jésus. Des fois, on veut que Dieu bénisse notre famille, on veut que Dieu bénisse nos enfants, mais on n'a jamais un temps avec nos enfants, où on passe du temps avec eux. Il faut être avec nos enfants, si vous voulez que le miracle se passe, mais y être avec Jésus. Il faut être dans la foule, mais y être avec Jésus. Une fois qu'on comprend ça, alors l'étape d'après, et il n'y a toujours pas de miracle, les amis, la structure libère le miracle. Il y a quelque chose qui m'interpelle vraiment dans ce texte, c'est que Jésus, lorsqu'il va recevoir les cinq pains et les deux poissons, il va dire aux disciples, faites asseoir les gens. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire asseoir un enfant qui a faim. C'est compliqué. Faire asseoir 10, 20 000 personnes. Vous imaginez, ils sont 12 disciples, on va dire ils sont 12 000, 1 pour 1000. Tu te retrouves devant 3 fois cette pièce ou 2 fois cette pièce et tu dois faire asseoir les gens. T'as pas de micro. Et en plus, Luc nous dit que c'était par rangée de 50 et des rangées de 100. Pas de 49 et de 100. Oh, c'est pas grave. Non, de 50 et de 100. Imaginez la logistique. On parle toujours pas de miracle à ce moment-là. Le miracle n'a toujours pas pris place. Mais j'aimerais qu'on puisse être conscient que le temps que ça a pris pour que le miracle prenne place, c'était beaucoup plus long que le temps que nous avons mis pour le lire, l'histoire. Ils ont dû faire asseoir plus de 10 000 personnes par rangée de 50 et de 100. En bon français que nous sommes, s'il y avait eu un français dans la pièce, ou si je m'étais retrouvé, moi, le disciple de Jésus devant 1000 français, et j'avais dit, allez, on va faire des rangées de 50 et de 100, ça va être fun, ça va être génial. Et là, il y aurait forcément quelqu'un dans les 1000. Pourquoi je dois m'asseoir? Non, alors, explique-moi le principe, parce que j'arrive pas à le comprendre, vraiment. Puis là, il y a tout un syndicat avec moi, on ne veut pas s'asseoir. Et là, il y aurait forcément eu, parce qu'il y en a eu qui sont assis d'abord, et puis après, parce qu'il fallait compter les gens, donc tu commençais pas à 49, tu commençais à 1, 2, 3, je vous fais grâce des autres, et puis 49, hey, il en manque un dans la rangée. Imagine le premier qui est assis. Ça va prendre combien de temps ton histoire? C'est moi, je suis assis le premier. Pourquoi je m'assois le premier d'abord? Hein? Lui, il a le temps de courir. Les enfants, imaginez, pourquoi moi je dois m'asseoir en premier? Eux, ils peuvent jouer au foot. Pourquoi moi je peux pas jouer au foot et je dois m'asseoir? Hein? Surtout que tu me donnes toujours pas à manger là. Hein? Imaginez la logistique que ça a dû prendre. Mais il a fallu d'abord faire asseoir les gens. D'ailleurs, relisez bien le texte quand vous serez à la maison. Les pains ont été distribués, les poissons ont été donnés à ceux qui étaient assis. Tu te serais retrouvé dans cette foule et t'aurais dit, ben non, pas moi. Eh ben t'aurais pas à manger, t'aurais regardé les autres manger. Parce que les pains et les poissons étaient donnés à ceux qui étaient assis. Par rangée de 50 et 200. Imaginez le temps que ça prend. Mais alors qu'ils le font, c'est ça qui libère le miracle. Imaginez une seule seconde que Jésus ne fasse pas ça. Et que là, il demande à Pierre, Jacques, peu importe, de dire, c'est bon, la multiplication commence. Imaginez Pierre, qui prend son micro invisible, et qui hurle aux 10 000 personnes, « Open bar, il y a des pains et des poissons !» 10 000 personnes qui s'écrasent les uns les autres. J'aimerais que vous soyez conscients qu'à la place d'un miracle, c'est des morts qui arrivent là. Et des fois, dans nos vies, on demande juste le miracle et on pense que le miracle va arriver comme ça. Les amis, avant qu'il arrive, Dieu désire qu'on s'organise et qu'on se structure. Je sais souvent, ça va piquer, hein, mais c'est pas grave, ça fait du bien. Et en fait, l'histoire, c'est que la structure, des fois, on pense qu'elle empêche le Saint-Esprit d'agir. Et que si on fait les choses comme ça, ah ben le Saint-Esprit n'est plus libre, il ne peut plus agir. Et des fois, à l'extrême, c'est plus on est désorganisé et plus on a l'impression que le Saint-Esprit peut agir. C'est pas biblique, les amis. Bien sûr, la structure en elle-même ne suffit pas. Faites asseoir des gens par rangée de 50 et 200, 10 000 personnes, et si vous ne nourrissez pas la foule, ça servira à rien. Mais parce que vous avez le désir de nourrir la foule et que le miracle va prendre place, c'est ça qui fait que le miracle va se relâcher sur le plus grand nombre. Et en fait, la structure sans le miracle, c'est comme vouloir le miracle sans la structure. C'est de la folie qui conduit à un manque de vie, toujours. Et c'est biblique. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, avant qu'il descende, il a fallu, vous relirez acte 2, il a fallu, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il n'y avait pas un qui avait piscine, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Maintenant, nous on lit ça, c'est facile, c'est écrit, on connaît l'histoire. Mais imaginez le temps, et d'ailleurs ça a pris quelques jours, le temps, le premier jour, premier rassemblement où ils se retrouvent tous ensemble, où tout le monde est enfin arrivé. Et que même Matthieu, qui est toujours en retard, est enfin là. Et là, on se rassemble et on fait les comptes. Alors toi, tu as renié Jésus, et trois fois. Toi, tu l'as abandonné dans le jardin de Gethsémani. Toi, tu dormais le premier alors qu'il disait de veiller de prier. C'était ça l'histoire, les amis. C'était ces gens-là qui se retrouvaient tous ensemble. Mais lorsqu'ils ont été unis, tous ensemble, là, le miracle est descendu. Lorsqu'ils se sont organisés, lorsqu'ils se sont structurés, lorsqu'ils ont décidé d'organiser leur vie. Et en fait, le problème, c'est que souvent, on dit, on va s'organiser lorsque le miracle sera là. Lorsqu'on aura les 10 000 personnes, alors on structurera l'église différemment. Non, c'est parce que tu vas le préparer que les 10 000 vont arriver. Et que lorsqu'ils vont arriver, ça ne va pas faire tout un ravage qui va juste faire des morts dans l'église, mais c'est ce qui va faire que le miracle va se propager pour tout le monde. La structure libère toujours le miracle. Et des fois, on demande le miracle pour notre famille, pour notre couple. Alors que, et en fait... Ce qui va déclencher le miracle, c'est juste que tu vas prendre le temps d'organiser ton emploi du temps, ta vie de prière, d'organiser tes relations, ta vie de couple, tes finances. Comment tu disciplines ton temps pour Dieu? Des fois, on demande à Dieu, écoute, j'ai besoin de 3000 euros, donne-moi 3000 euros. Et la question que j'aimerais nous poser, c'est qu'est-ce que je fais des 100 euros que j'ai actuellement? Des fois, on veut servir Dieu à temps plein, et puis on veut servir Dieu à temps plein, et... La question que je nous pose, c'est qu'est-ce que je fais du temps que j'ai actuellement dans la semaine? Parce que lorsqu'on sert Dieu à temps plein, on n'a pas 48 heures par jour, on a toujours 24 heures. Et on a toujours besoin de dormir et de manger. On n'est pas tout le temps en veillée de prière et en jeûne et prière, les amis. Hein. Mais la réalité, c'est avant de servir Dieu à temps plein, qu'est-ce que tu fais des 5 minutes que tu as chaque jour, chaque matin? Qu'est-ce que tu fais de l'heure que tu passes dans les transports en commun? Comment tu l'investis? Qu'est-ce que tu en fais pour le royaume? Des fois, on veut rêver des grandes choses pour Dieu et faire des choses incroyables. Mais quelle est l'attitude que tu as, l'investissement que tu mets dans les petites choses, là où personne ne te voit? Je ne refais pas le message de dimanche dernier, mais avant de tuer un géant Goliath, il a fallu tuer un lion et un ours alors que personne ne le voyait, David. Mais c'est pareil pour nous. La structure libère toujours le miracle. C'est un point fondamental à comprendre. Jésus a fait asseoir les gens et le miracle s'est libéré. Le miracle se fera toujours avec ce que l'on donne à Jésus, jamais avec ce que l'on garde. Le miracle n'a toujours pas pris place, les amis. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le miracle s'est fait avec les 5 pains et les 2 poissons. Je sais, vous le savez, mais j'aimerais que vous soyez pleinement conscient que Jésus a fait avec ce qu'on lui a donné. Vous savez, moi je crois vraiment que si j'avais été à la place de Jésus, lorsque ce petit garçon vient, j'aurais été du style à dire, à prendre, viens petit garçon, viens, monte sur l'estrade, monte tes 5 pains et 2 poissons. Et les amis, regardez, regardez ce jeune garçon qui a donné 5 pains et 2 poissons pour répondre à l'appel de nourrir la foule. Qui dans ce lieu voudrait faire comme ce jeune garçon, l'imiter et donner ses pains et ses poissons? Forcément, il y en aurait plein qui auraient levé la main. Et waouh! Mais Jésus n'a pas fait ça. Jésus a fait le miracle avec ce qu'on lui a donné. Et uniquement avec ce qu'on lui a donné. Et ce petit garçon, j'aimerais que vous soyez conscient de ça. Ce petit garçon a tout donné. Souvent on dit, et j'aimerais l'enlever de nos consciences et de nos croyances, souvent on dit, il a donné que 5 pains et 2 poissons. Enlevez le que 5 pains et 2 poissons. Il a donné tous ses 5 pains et ses 2 poissons. Pourquoi? Parce qu'en fait, plusieurs commentateurs révèlent le fait que 5 pains et 2 poissons, c'est la ration hebdomadaire qu'on donnait aux orphelins pour qu'ils aient à manger pendant une semaine. Et là, le don, il prend un peu plus de sens et de puissance. Ce jeune garçon, quand il a donné ses pains et ses poissons dans les mains de Jésus, il sait que s'il n'y a pas de miracle, il ne mange pas avant une semaine. Et il n'y a personne vers qui se tourner, sur qui compter. Ce petit garçon n'a pas compté. Il a tout donné. Je ne sais pas comment le faire. Je ne sais pas comment vous le dire. Je ne sais pas comment vous propulser dans cette vie-là. Mais j'aimerais vous encourager ce matin à tout donner à Jésus. À ne rien garder. Parce que dans cette foule, il y en a qui ont gardé. Mais Jésus a fait avec ce qu'on lui a donné. Pourquoi je dis ça? Parce que Il y en a forcément d'autres qui avaient à manger, les amis. Vous me croyez ou non, mais sur les 10 000, 20 000, il y en avait forcément d'autres qui avaient à manger. Comment je le sais? Le texte, on l'a fini, et la Bible dit qu'après le miracle, on a ramassé 12 corbeilles de pain. Alors moi, j'ai une question toute simple. Quand je lis ce texte, elles viennent d'où, les corbeilles? Elles viennent d'où, les corbeilles, les amis? Vous croyez que c'est un mari avec sa femme au moment où il sort le matin? Hé chérie, prends une corbeille vide, on ne sait jamais avec Jésus ce qui peut se passer. Non! Il y en avait d'autres qui avaient à manger. Mais Jésus n'a pas fait le miracle avec ce que les gens ont gardé. Il a fait le miracle avec ce que le petit garçon a donné. Jésus ne fera pas le miracle avec ce que tu vas garder ce matin. Il va faire le miracle avec ce que tu vas lui donner ce matin. Avec ce que tu vas être prêt à offrir, à investir. Dans ton temps, dans tes finances, dans tes relations, dans ce que tu veux, dans tes rêves, dans tes projets, dans tes plans de vie. Dieu fera le miracle avec ce que tu vas lui donner. Si tu lui donnes tout, Dieu fera encore plus grand. Mais il ne fera pas avec ce que tu vas garder. Jésus bénit ce qu'on lui donne. Parce qu'un cœur brisé et reconnaissant précède toujours le miracle. Le miracle n'a toujours pas eu lieu. Et alors qu'il a les 5 pains et les 2 poissons, Jésus prend les 5 pains, il le fera aussi avec les poissons, il les bénit, il les brisa et il les distribua. Jésus a béni 5 pains et 2 poissons. Je ne sais pas pour vous qui. Avez déjà offert quelque chose d'important, un cadeau, puis une personne prend le cadeau et le met à la poubelle. Le petit garçon donne tout ce qu'il a à manger pendant une semaine, et en l'espace de quelques secondes, c'est en miettes. Ça a été brisé. Mais parce que Jésus a béni ce que le petit garçon a donné, c'était le début de la multiplication. Ce qui est brisé entre les mains du diable, ça finit en ruine. Ce qui est brisé dans les mains de Jésus, c'est le début du miracle. Mais il fallait donner. Et Jésus, comme je le disais, n'a pas fait un appel pour avoir plus. Il a béni ce qu'il y avait. Il n'avait pas besoin de plus. Il avait juste besoin de ce que l'on donne. Il a béni 5 pains et 2 poissons. Si vous avez déjà fait le mariage d'un de vos enfants, si vous êtes déjà marié, vous savez que pour 10 000 personnes, si elles étaient là à votre mariage, 5 pains de poisson, ça ne suffit pas. Mais Jésus a béni ça quand même. C'est tout ce que le petit garçon pouvait offrir. C'était certainement pas suffisant pour la foule. Mais Jésus l'a béni. Ce que vous allez offrir ce matin, ça va être béni par Jésus. La louange dans ces moments-là, de bénir le peu que nous avons, ouvre le ciel sur ce que nous n'avons pas. Mais cette louange-là est difficile, je le sais. Cette louange-là est compliquée, elle amène un brisement. Mais ce brisement, c'est le début du miracle. C'est le début de la multiplication. Et alors que ce petit garçon voit ses pains brisés, c'est toute sa vie qui est en miettes à ce moment-là. C'est son avenir. Il n'a rien d'autre, ce petit garçon. Il n'existe qu'avec ça. Mais alors que c'est brisé, c'est le début de la multiplication. Cette louange-là est compliquée, mais la Bible nous l'enseigne, partout dans l'Écriture. C'est celle qui précède le miracle. Paul et Silas, dans une prison, sont en train de chanter les louanges de Dieu, et les murs de la prison tombent. Ils n'ont pas loué Jésus après, c'est parce qu'ils ont loué avant que les murs sont tombés. Le peuple avec Josaphat, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, Dieu plaça une embuscade. C'est pas après, c'est avant. Je crois qu'il y a une puissance. Je m'écris « Loué soit l'Éternel » et je suis délivré de tous mes ennemis. Les amis, il y a un appel à ne plus voir le miracle, mais à le vivre. Pour le vivre, ça passe par un cœur qui sait louer Dieu pour ce que j'ai. Et c'est ça qui ouvre le ciel sur ce que je n'ai pas.
Ce message a été enregistré à l'église Momentum de Bordeaux. Pour le réécouter, rendez-vous sur eglisemomentum.com.
Phare FM, ma radio.
You don't wanna dance with me, but babe, that's what I need. Please, now just this once. Dance, baby. You don't wanna sing with me, but babe, that's what I need. Please, now just this once. Sing, baby.
1h48, toujours sur Phare FM dans la nuit. Autrement, c'était Sia, Give Me Love. On poursuit en musique et on va retrouver Affaire de Famille tout à l'heure. On écoute Gungor, We Are Stronger. Ce sera après Open avec un Si. C'est tout de suite et avec un Si. On pourrait changer le monde, mais les Si, parfois, ça ne sert pas à grand chose. Alors on écoute cette très belle chanson et je vous souhaite encore une bonne nuit à l'écoute de la radio. Autrement, à tout à l'heure.
Avec un Si, certains diront qu'en une bouteille on mettrait Paris. Avec un Si, c'est si facile de dire sans faire pour taire les cris. Avec un si, une seconde changerait le monde, changerait la vie.
Alors allez bien, faut qu'on essaie un peu de tracer le chemin de fer, que demain sera mieux. Alors allez bien, faut qu'on essaie un peu de croiser nos chemins de fer, que demain sera mieux. Demain sera mieux, sera mieux. Que demain sera mieux, sera mieux.
Avec un si, et seulement si on donnait nos cœurs, on donnait nos vies. Avec un si, facile à dire, pas facile à faire, ça reste un pari. C'est ainsi qu'on se dit que demain sera bien mieux qu'hier, mieux qu'aujourd'hui.
Alors allez bien, faut qu'on essaie un peu de tracer le chemin de fer, que demain sera mieux. Alors allez bien, faut qu'on essaie un peu de croiser nos chemins de fer, que demain sera mieux, que demain sera mieux. Que demain sera mieux, sera mieux.
Et à quoi bon vouloir changer les choses? Et à quoi bon si l'homme ne change pas? On aura beau aux anges jeter des roses, si ce n'est que parler, parler, parler.
Alors allez viens, faut qu'on essaie un peu de tracer le chemin de fer, que demain sera mieux. Alors allez viens, faut qu'on essaie un peu de croiser nos chemins de fer, que demain sera mieux.
Alors allez viens, faut qu'on essaie un peu de tracer le chemin de fer, que demain sera mieux.
Every black life matters. Every woman matters. Every soldier matters. All the unborn matter. Every gay life matters. Fundamentalists matter. Here's to life and all its branches.
De famille.
Mère Teresa a déclaré : Jésus-Christ est le chemin qu'il faut suivre, la vérité qui doit être enseignée et la vie qu'il faut mener. Et j'ai trouvé cela très vrai. Jésus peut racheter toute vie, il peut restaurer l'innocence et la joie. Et voyez-vous, j'en suis une preuve vivante, car j'étais perdu et Jésus m'a trouvé. J'ai subi des sévices et il m'a guéri. J'étais pécheur et Christ m'a sauvé et libéré. Je vivais dans le mensonge et Jésus m'a montré la vérité. Je vivais comme un homme mort, sans joie et sans espérance, et il m'a donné la vie. J'étais un ivrogne et il m'a délivré. Je n'avais pas la paix et il m'a donné sa paix. J'ai été blessé dans un accident et il m'a guéri. Christ est la réponse à tous les besoins que j'ai rencontrés, à l'amour que j'ai toujours désiré. Et voyez-vous, je sais qu'il veut faire la même chose avec vous et pour vous, à condition que vous vouliez bien le lui demander. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas?
Retrouvez Affaires de famille en podcast sur pharefm.com.
PharFM, une autre musique.
In a world that stands divided, I have decided. In a world that stands divided, I have decided. With my hands and my feet, with my heart and my voice, I will follow Jesus. With my life and my song, I have made this my choice. I will follow Jesus. In a world that stands divided, yeah. In a world that stands divided, I have decided. With my hands and my feet, with my heart and my voice, I will follow Jesus. With my life and my song, I have made this my choice. I will follow Jesus. Stands divided, let the church stand united. If you're with me, let me hear you say,